Hello à tous, vous écoutez Bien-être étudiant On Air, le podcast de bien-être qui parle des différentes problématiques de la vie étudiante. Nous sommes les étudiants relais santé de l'Université de Bordeaux et nous venons chaque mois vous parler de la santé mentale étudiante accompagnée d'un professionnel de santé. Chaque podcast est réalisé dans une atmosphère de bienveillance et de respect afin de vous accompagner au mieux dans un format décontracté mais toujours informatif. Allez, c'est parti!
Lors de ces podcasts, nous allons traiter des sujets pouvant être sensibles. Si vous pensez que cela peut vous heurter ou vous faire mal, préservez-vous et rejoignez-nous plutôt sur un prochain podcast. Si vous ne vous sentez pas bien ou que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé.
Salut Caroline.
Bonjour Lisa, comment ça va?
Bah ça va et toi, bonne année.
Eh bien bonne année. On est très contente de vous retrouver. C'est mon premier podcast avec l'espace santé
oui.
Étudiant. Je suis étudiante en orthophonie et étudiante relais santé en bien-être à l'espace santé étudiant.
Bah écoute, bienvenue parmi nous Caroline. Et oui, qui dit nouvelle année dit souvent nouveaux projets, mais surtout des résolutions. Est-ce que toi tu en prends chaque année? Tu sais, enfin, ces fameuses listes que tu fais en espérant que tu seras une meilleure version de toi-même cette année?
J'ai un peu abandonné ces longues listes de résolutions, mais c'est vrai que pour moi, comme un peu comme tout le monde, je pense, la nouvelle année est synonyme un peu de nouveaux objectifs et de questions sur soi dans des domaines différents, le sport, l'alimentation, mes révisions.
C'est vrai que ça tourne souvent autour de ces thématiques, mais bon, avouons-le, il y a quand même un revers de la médaille. On se met la pression pour y arriver, ça nous prend la tête, et bon, bien souvent, on n'arrive pas à les tenir.
C'est vrai, mais ça peut être aussi l'occasion de se créer des nouvelles habitudes qui peuvent être vraiment utiles pour soi.
Bon, vous l'aurez compris, nous allons parler de ces nouvelles résolutions, comment trouver le juste équilibre pour ne pas trop se mettre la pression, mais aussi pour faire les changements que l'on repousse depuis trop longtemps.
Pour cela, on accueille aujourd'hui Robin, psychologue de l'espace santé étudiant, qui nous aidera à répondre à quelques questions que vous nous avez envoyées via Instagram. Bonjour Robin.
Bonjour, merci beaucoup de m'inviter. Bonne année à tous et toutes.
Bonne année.
Bonne année.
Je suis psychologue à l'espace santé étudiant, donc j'accueille les étudiants qui le souhaitent dans des suivis individuels sur quelques séances pour essayer d'évoquer et de trouver des solutions par rapport à leurs difficultés en santé mentale sur tout type de sujet. Et donc je travaille dans une équipe pluridisciplinaire avec des infirmières, des médecins, des psychiatres, des infirmières psychiatriques.
Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Avant de se demander quelle bonne résolution on a prise, il nous semble quand même nécessaire de prendre un temps pour faire un bilan de l'année qui s'est écoulée. Parce que, en soi, à quoi bon se lancer dans une nouvelle année si on n'apprend pas des précédentes? De quoi on est fier? Quelles ont été nos déceptions? Comment on peut y remédier? Donc on va se poser un peu toutes ces questions déjà sur l'ensemble des pans de notre vie, que ce soit au travail, avec la famille, les amis ou la santé, pour pouvoir s'améliorer l'année suivante.
Donc Robin, est-ce qu'il y a des résolutions que tu as prises l'année dernière que tu as réussi à tenir? Est-ce qu'il y a des résolutions où tu as eu plus de difficultés? Comment toi tu vois cette nouvelle année et cette notion de résolution?
L'année dernière, je n'avais pas forcément pris de nouvelles résolutions. J'avais une activité professionnelle au CHU de Bordeaux qui commençait, donc c'était un peu l'occasion de m'intégrer dans cette institution et dans cette équipe. Mais je n'avais pas pris nécessairement de résolutions l'année dernière. Cette année, j'essaye de le rendre pas trop officiel parce que pour pas me mettre la pression, mais on y reviendra. Mais en tout cas, je me suis dit que ça me ferait du bien de faire plus d'activités physiques. Et du coup, je me suis dit qu'avec un ami, on irait plus souvent à l'escalade. Et pour être plus précis, on va essayer d'y aller deux fois par semaine avec un ami qui est motivé aussi. Donc, on essaie de se soutenir mutuellement.
Ça, c'est vrai que c'est un point important du côté des résolutions. C'est tout d'abord savoir concrètement quel est notre objectif, donc se remettre un peu en forme. Le faire avec quelqu'un, ça peut aussi le rendre plus concret. Donc ça, c'est vraiment bien. L'accompagnement, ça peut être le rendre aussi un peu plus fun. Et une temporalité où on sait que ça peut fonctionner avec notre emploi du temps. Parce que très souvent, on se donne des résolutions où en fait, on sait très bien qu'on n'arrivera jamais à les tenir, même sur le court terme.
C'est vrai que moi, les résolutions, c'est aussi quelque chose qui va en général toucher plutôt le sport et l'alimentation, plutôt que vraiment des changements pour moi. En début d'année, je trouve ça plus simple de se concentrer sur le physique et les activités avec des nouveaux objectifs. Donc moi aussi, c'est plutôt par rapport au sport. Et je trouve justement que c'est difficile de vraiment se poser et se demander ce qu'on veut au niveau professionnel ou plus personnel.
Est-ce que pour vous, c'est aussi un moment de réflexion sur vous-même pour ajuster vos bonnes résolutions?
Oui, pour moi, la nouvelle année, je ressens toujours le mois de janvier comme... j'ai un peu une sensation de renouveau. J'ai l'impression que ça peut être un nouveau départ où on peut envisager des nouvelles choses. Mais j'essaye aussi de ne pas trop mettre la pression par rapport aux résolutions. Je trouve que si on veut vraiment faire des changements, il ne faut pas forcément se forcer à les faire au mois de janvier parce qu'autour de nous, tout le monde nous demande « Alors, quelles sont tes résolutions ?» Il faut vraiment prendre le temps pour soi comme on le sent. Mais j'ai vraiment une sensation... voilà, de renouveau où on peut faire des nouvelles choses et des nouveaux objectifs pour l'année.
Ben, naturellement, de mon côté, je fais un petit peu le bilan de mon année fin décembre quand je retrouve ma famille un peu pour Noël et pour le jour de l'an. Et donc ça me laisse un peu le temps de réfléchir et de me dire bah, qu'est-ce qui s'est passé cette année, de désagréable et d'agréable aussi, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai essayé, mais peut-être que je l'ai réussi que partiellement. Et du coup, je suis par ailleurs dans une démarche de moins me mettre la pression, être moins exigeant envers moi-même, prendre plus du temps libre, du temps pour rien faire de particulier, juste réfléchir ou lire ou à pas faire forcément du remplissage de planning. Et donc, bah, comme c'est un processus qui est long, ce type de progression, bah, je me dis que ça a été un peu accompli en 2021, mais du coup, j'essaye de continuer du mieux possible en 2022 et puis peut-être encore pour quelques années.
C'est vrai que c'est une question qui revient souvent, justement, comment avoir ce juste équilibre entre se donner de nouveaux objectifs sans trop se mettre la pression. Comment est-ce qu'on peut atteindre ça ?
C'est vrai que les objectifs, il faut qu'ils soient réalisables et non culpabilisants. Ce serait dommage de se mettre trop d'objectifs qui sont trop difficiles et enfin, des montagnes à franchir. On peut y aller, je pense, petit à petit pour vraiment être content de soi et de ce qu'on réalise.
Pour répondre à ça, peut-être qu'on peut déjà s'amener à faire des choix, pas trop d'objectifs différents qui sont difficiles à atteindre. Donc ce serait déjà sélectionner ce qui nous tient le plus à cœur, se questionner sur comment le mettre en place. Est-ce que c'est possible ? Quel temps ça va me prendre dans mon emploi du temps ? Et ça veut aussi dire savoir se féliciter des progrès, y aller petit à petit, pour faire en fait une transition. On ne peut pas changer notre quotidien du jour au lendemain. Et c'est vrai que se diviser ses objectifs en mini-objectifs, ça peut nous aider.
Là, je vais parler en tant que psychologue. Les bonnes résolutions, en fait, ça peut être un peu l'occasion de développer sa santé mentale et physique, et donc son bien-être global. Mais l'idée, comme vous l'avez dit, c'est un peu de sortir d'un moi idéal, c'est-à-dire de quelque chose d'un peu perfectionniste, par exemple. Quand on a un peu trop d'ambition, un peu de manière excessive, quand on se met une pression excessive, ça peut être finalement facteur de... Ça peut faire l'effet inverse, c'est-à-dire de diminuer l'estime et la confiance en soi. Quand on se donne des bonnes résolutions, mais qu'elles sont tellement inaccessibles qu'on n'arrive finalement pas à les atteindre, et donc on perd un peu confiance en soi. Donc je pense que le plus important, c'est surtout de lâcher prise sur ces résolutions idéales et d'être une personne... un peu comme on verrait dans les magazines ou sur les réseaux sociaux, par exemple. Des personnes qui se présentent toujours sur leurs meilleurs jours, mais on ne voit jamais quand elles sont malades ou quand elles doutent, etc. Et de surtout se centrer sur l'accueil de soi, l'écoute de ses besoins, de ses sentiments, de ses émotions. Aussi l'écoute des sensations physiques pour prendre soin de soi, mais de manière douce. Pour moi, l'important, c'est de se demander... qu'est-ce que je pourrais me faire comme cadeau pour mon bien-être, pour mon mieux-être ? Et de garder en tête d'être gentil envers soi-même. Ça peut paraître un peu bisounours ou un peu théorique, la gentillesse envers soi, mais c'est pourtant un ingrédient vraiment essentiel du bien-être psychologique. Déjà juste être gentil ou bienveillant ou dans l'acceptation envers soi-même, ça peut déjà être un défi en soi pour une partie d'entre nous. De se dire, allez, cette année, par exemple, je vais tenter de m'accepter davantage tel que je suis ou bien tel et tel défaut. Je vais essayer de les accepter, de les accueillir comme ils sont, puisque ça fait partie de moi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les améliorer, bien sûr, mais juste déjà, l'acceptation, c'est un peu une condition préalable au changement. Et une fois qu'on sort de la performance, on peut commencer à réfléchir plus sainement, entre guillemets, aux actions qui nous rapprochent de ce qui est important pour nous, c'est-à-dire nos valeurs. Par exemple, est-ce que c'est important pour moi, les liens affectifs, la stimulation intellectuelle, le divertissement, le sentiment de progresser dans une activité, que ce soit une activité physique ou une activité passion, un hobby. Et on peut aussi se dire que ça peut être important de voir pas seulement dans l'année 2022 là, qui s'annonce, mais aussi à plus long terme. Même si notre culture elle nous incite à voir en ce moment à très court terme, et puis avec la pandémie par exemple, on voit de semaine en semaine comment ça évolue, On peut aussi lever la tête et regarder en arrière sur les 3, 5 ou 10 ans qui viennent de s'écouler. On a accompli un tas de projets, même si ce n'est pas des projets toujours grandioses. Hein. Ça peut être des choses qui sont assez ordinaires. Si on fait vraiment le compte de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a accompli un tas de choses. Ça veut dire qu'on peut aussi donc prévoir des actions qui développent notre bien-être, mais sur le plus long terme, c'est-à-dire sur les 3 à 5 ans qui viennent. C'est pas obligatoirement fixé sur l'année 2022. Ça permet de prendre un petit peu de hauteur et un peu de recul et une visibilité plus large et plus grande.
Et Robin, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi justement ces bonnes résolutions finalement elles peuvent mener un peu à rire ou justement on a tous des difficultés à les tenir? Est-ce qu'il y a une explication de ces difficultés de changement qu'on a tous un peu en début d'année?
Oui, du coup, je vous ai trouvé une ou des études qui parlent un petit peu des nouvelles résolutions, mais vraiment plus statistiquement. Selon une étude de la TNS-CIFO qui a été menée en 2015 sur 1800 personnes, les résolutions du nouvel an principales sont à 26%, donc la résolution principale, de manger plus sainement. Alors ça, c'est peut-être l'effet aussi des fêtes où on est un peu parfois dans l'excès. Il y a aussi recommencer à faire ou commencer à faire de l'exercice physique, 21% des personnes interrogées, de moins stresser, 18% des personnes, et de consacrer plus de temps à ses amis et à sa famille pour 12% des gens. Et il y a une autre étude qui a été menée en Suède en 2015 avec des personnels d'une clinique. Et donc toutes les personnes interrogées et volontaires avaient pris des nouvelles résolutions pour la nouvelle année. Et les chercheurs, ils ont contacté tous les participants chaque mois pour voir quand est-ce qu'ils réussissaient à accomplir leurs résolutions, quand est-ce qu'ils abandonnaient. Voilà, essayer d'avoir à chaque moment chronologique un peu une vision de comment les choses évoluent. Et en fait, ils se sont rendus compte que 66% des personnes ont brisé, entre guillemets, leurs bonnes résolutions au cours des 10 premiers mois de l'année, donc avant novembre. Et la plupart ont été abandonnées en mars et en mai. Donc tout ça pour dire que ça c'est juste des statistiques, mais c'est certainement pas facile de tenir les bonnes résolutions. D'où l'importance de découper en plusieurs parties nos progressions sur ce qu'on souhaite accomplir, que ce soit en termes de bien-être ou d'accomplissement d'actions comme s'inscrire au sport, manger plus sainement ou voyager par exemple. Le but c'est de découper donc en étapes, un peu comme quand on voudrait gravir une montagne, on ne peut pas le faire nécessairement d'une traite, il faut s'arrêter à des refuges et un peu faire le point et peut-être réajuster aussi nos résolutions. Et ce que je vous propose comme outil plus concret, toujours en gardant en tête d'être bienveillant envers soi, d'être aussi dans l'acceptation qu'on ne peut pas tout accomplir et que ça ne dépend pas toujours de nous, ça dépend aussi de l'environnement et des conditions dans lesquelles on évolue. Mais il y a une méthode qui est intéressante pour ça, que je peux vous conseiller, c'est la méthode SMART ou les objectifs SMART. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire spécifique. C'est-à-dire que l'objectif en question doit être clairement défini et il doit être clair. On ne peut pas dire, par exemple, être moins stressé ou être plus heureux. Il faut le définir. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être moins stressé ou être plus heureux? Il doit être mesurable aussi. Alors, comme on l'a dit, c'est plus facile de mesurer la distance que je parcours en jogging que la qualité d'une relation. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir, dans la mesure du possible, mesurer, même quand c'est avec les sentiments, comment on ressent la qualité d'une relation ou la qualité de la confiance, par exemple, qu'on accorde à quelqu'un. Il doit être atteignable. L'idée, c'est de ne pas être trop ambitieux, mais juste suffisamment stimulant pour pas que ça soit non plus ennuyeux. Il doit être aussi réaliste en fonction des possibilités que nous offre notre environnement. Et il doit être temporellement défini, c'est-à-dire, et là on parle aussi du découpage dans le temps, c'est-à-dire en mars, par exemple, j'aimerais être capable d'avoir couru 4 km, en mai 6 km, etc., etc. Et à chaque fois, en fait, le but de découper comme ça, c'est de ne pas avoir l'impression qu'on va fournir un grand effort pour accomplir un grand objectif, mais de plutôt fournir un petit effort et au fur et à mesure valider des objectifs intermédiaires. Et le fait de valider les objectifs intermédiaires, en fait, ça va développer la motivation pour nous entraîner sur l'objectif intermédiaire suivant. Et c'est ça qui va permettre à la fin d'atteindre les objectifs et du coup de ne pas nécessairement les abandonner. Mais on a le droit aussi de les abandonner ou de les découper pour l'année d'après. Et c'est pas un problème. L'idée, c'est de pas se culpabiliser pour ça.
Robin, comment on se crée des habitudes? Quels sont les moyens qui peuvent être mis en place pour se créer justement des résolutions sur le long terme qui peuvent se transformer en habitudes vraiment utiles? Comment on les acquiert et comment on les met en place?
L'idée, c'est de pouvoir ritualiser les bonnes résolutions qu'on souhaite tenir. Si on part sur l'exemple assez simple qui peut peut-être parler à tout le monde, de manger des légumes au moins 3 fois par semaine pendant toute l'année. Il y a la possibilité déjà de se demander avec une approche qui s'appelle l'approche centrée solution. C'est Steve de Chazer qui l'a inventé en psychologie. L'idée, c'est que vous pouvez vous imaginer les bienfaits que vous ressentirez physiquement et dans votre humeur aussi, et pourquoi pas dans vos relations, quand vous aurez accompli cette action-là. Et en fait, de les visualiser, de les imaginer ou de les sentir même par imagination. Et le fait d'imaginer ces bienfaits, ça peut être un moteur ou un carburant pour mettre en place le comportement et ce qu'on appelle implémenter la motivation. Par exemple, quand j'aurai arrêté de fumer, quels sont les bienfaits que je vais ressentir? Qu'est-ce que ça va me permettre personnellement, socialement, en termes de santé globale et aussi économiquement? Et en fait, le fait de se connecter déjà avec les résultats imaginés est une source de motivation. L'idée, c'est pas de s'appuyer seulement sur la bonne volonté. En fait, la bonne volonté, c'est un peu la racine de la motivation, mais il faut pouvoir ritualiser. Et comment on va faire? Par exemple, ça peut être de mettre un post-it ou un petit papier ou juste une inscription, par exemple, sur le miroir de la salle de bain. Ça, c'est souvent ce que je propose aux étudiants pour prendre un médicament, par exemple, de manière très régulière. C'est de se mettre un petit réveil ou un petit post-it à un endroit ou une petite inscription au stylo ou au rouge à lèvres, par exemple, sur son miroir de salle de bain, pour se rappeler de faire telle pratique ou de faire telle action, tel comportement ou de manger une assiette de légumes 3 fois par semaine. Donc, c'est vraiment des rappels visuels ou des rappels sonores comme le réveil. Et ça, au fur et à mesure du temps, en fait, le cerveau, il va enregistrer qu'il y a un rituel et au bout de quelques semaines, on va dire 2 à 3 semaines, le cerveau va enregistrer que c'est une habitude à prendre et qui ne va plus demander un effort à mettre en place. Il peut y avoir un effet d'habituation. Donc c'est le fait, par exemple, que le post-it qui était sur mon miroir de salle de bain pour prendre mon médicament ou pour manger tous les matins un yaourt qui me fait du bien, par exemple, je peux, au bout d'un moment, ne plus le voir et du coup, je peux aussi perdre cette habitude-là. Donc l'idée, c'est quand on s'en rend compte, on change juste la stimulation, c'est-à-dire qu'on change d'endroit le post-it ou le rappel, ou on l'écrit d'une autre façon, de manière à renouveler dans notre esprit et dans notre mémoire qu'il y a ce rituel et que c'est important pour soi de le faire. Et on peut aussi en profiter d'ailleurs pour se dire, ah bah tiens, bon là, peut-être que j'ai oublié hier de faire ça, mais qu'est-ce que ça m'a apporté jusqu'à présent? Et du coup, les bienfaits, ça va redynamiser la motivation que j'ai à changer.
Vous l'aurez bien compris, le problème des résolutions qui sont beaucoup trop dures à réaliser au premier coup nous amène à nous interroger sur nos motivations de ces bonnes résolutions et surtout sur la durabilité dans le temps. Donc n'ayez pas peur de prendre des petites résolutions à réaliser au quotidien, ça peut être n'importe quoi, boire un verre d'eau par jour en plus, prendre 5 minutes pour respirer une fois par jour, prendre le temps de dessiner, écrire, lire, pendant un temps limité même, 10 minutes. Ce sont des petits changements qui ne changent pas fondamentalement notre mode de vie, mais qui au long terme pourront être étendus et permettront de mettre en place des vraies résolutions.
Oui, et il ne faut pas oublier que le mois de janvier, c'est une occasion de prendre des résolutions et de réaliser des changements, mais ce n'est pas une obligation. Il ne faut pas non plus prendre des résolutions qui vont nous culpabiliser et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à son entourage et de se créer un environnement propice pour avancer.
On arrive à la fin de ce podcast. Merci beaucoup Robin de nous avoir rejoints et d'avoir répondu à toutes nos questions. Si vous voulez nous rejoindre pour un prochain podcast, abonnez-vous à notre compte Instagram Espace Santé Étudiant. Vous trouverez toute l'information.
Merci Lisa de m'avoir accompagnée pour cet épisode. Merci à tous ceux qui nous écoutent et nous suivent sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à Bien-être Étudiant On Air sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts pour ne rater aucun épisode.
On vous rappelle que les professionnels de santé de l'espace santé étudiant à PESAC sont toujours disponibles pour vous recevoir et vous éclairer sur n'importe quelle problématique. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.